Ça a commencé quand j'avais 4 ans. À un moment donné, mes parents voyageaient. Ils étaient obligés de me laisser avec ma tante maternelle. J'étais petite, mais je n'ai jamais oublié ce qu'elle m'a fait. Elle me dit de faire un travail que je ne pouvais pas à l'âge de 4 ans, comme de nettoyer la maison, faire la lessive, laver les assiettes, tout. Et si je ne l'obéissais pas, elle me tabassait, elle ne me donnait pas à manger. Je dormais dans la cuisine. À 4 ans, j'étais domestique de ma tante.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Reportage aujourd'hui au Togo à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants ce dimanche pour comprendre le phénomène du confiage et ses dérives. En Afrique, il est encore largement admis que les enfants circulent, qu'ils peuvent être confiés à un membre de la famille ou de la communauté. Le phénomène n'est pas nouveau, il est connu de tous, mais c'est une pratique culturelle qui aujourd'hui conduit souvent à l'exploitation infantile. 86 600 000 enfants sont au travail en Afrique subsaharienne, selon l'UNICEF. C'est un enfant sur quatre, en fait, qui est soumis à la servitude. Confiage des enfants, que se passe-t-il dans les familles? C'est un reportage de Raphaël Constant. Bonjour Raphaël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc allé à la rencontre de la société civile, à la rencontre de familles, pour comprendre les conséquences du confiage des enfants.
Oui, j'ai mené l'enquête à Lomé et à Sokodé. C'est la deuxième ville du pays dans la région centrale du Togo. C'est la ville des Kotokoli, l'ethnie majoritaire, car nous sommes en pays thème. J'ai rencontré des enfants confiés, victimes de violences, certains qui vivent toujours dans des familles où ils sont exploités. J'ai aussi pu interviewer des parents qui ont dû confier un de leurs enfants, ainsi que des familles d'accueil. Et j'ai aussi suivi des associations qui mènent des actions de terrain pour protéger les enfants vulnérables au Togo. Et vous allez comprendre à quel point le sujet est sensible, même s'il est connu de tous. Et je précise, Emmanuel, que tous les prénoms des enfants, des parents ou tuteurs ont été changés.
Alors, on commence avec un premier témoignage.
Oui, c'est celui d'Aïcha, 19 ans. Elle est en classe de seconde et elle a été confiée à l'âge de 6 ans pour des causes mystiques. Je l'ai rencontrée chez sa tutrice, absente de la maison ce matin-là. Bonjour.
Bonjour.
Je peux m'asseoir à côté de toi? On est dans une cour. Il y a des marmites étalées un petit peu partout, des chèvres qui sont accrochées à l'arbre derrière nous. On est chez ta tutrice ici?
Oui, c'est chez ma tutrice. C'est mon père qui m'a amené chez ma tutrice. Et je ne sais pas exactement ce qu'il a dit à ma tutrice, mais une fois je l'ai entendu dire que c'est parce que mes petites soeurs qui m'ont succédé mouraient et il m'a confié pour voir si ça va s'arrêter ou pas.
Et comment ton papa, il a rencontré ta tutrice?
La tutrice venait au marché de notre village. Il était le client de ma tutrice. Donc, une fois, il est abordé à ce sujet et il est demandé « Est-ce que je peux venir rester avec elle ?» Et elle a accepté.
Et depuis que tu as été confiée, est-ce que tu as des nouvelles de tes parents?
Non, je n'ai pas les nouvelles de mes parents. Mes parents, ils sont au Ghana maintenant. Ils sont avec mes frères et sœurs.
Et est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé?
Quand j'étais venue à la rentrée, elle m'a amenée à l'école. Et à la maison, je faisais les travaux domestiques. Je cuisinais, je balayais la cour, je faisais la vaisselle aussi. Des fois, avec l'entretien, les tâches ménagères, je finis trop tard et puis je n'ai pas le temps d'étudier.
Est-ce que ta tutrice, elle a des enfants?
Elle a 7 enfants. Avec les autres enfants, ça allait, mais avec la tutrice, des fois, ça n'allait pas bien. Des fois, elle m'insultait, des fois, elle grondait. Elle ne me traite pas bien. Moi, je n'arrive pas à supporter et ça me fait mal. Des fois, quand elle s'énerve, elle me parle méchamment, me lance des insultes. Quand elle est vraiment très, très en colère, elle me frappe. C'est pas tout le temps. Peut-être parce que j'ai fait quelque chose ou bien elle est énervée contre quelqu'un et puis elle déverse sa colère sur moi.
Est-ce que tu en as parlé?
Oui, j'ai parlé à un monsieur. Il était le client de maman. Et puis quand il venait à la maison, il voyait comment la femme la me traite. Et une fois, quand je revenais de l'école, il m'a abordé et je l'ai expliqué. Il m'a donné le numéro d'une femme. Et c'est comme ça que je me suis mis à parler avec les gens de l'ONG Parfaite. Et ils sont venus à la maison pour voir la situation.
Et quand tu es arrivée chez ta tutrice, est-ce que tu as été inscrite à l'école?
Depuis le cours primaire jusqu'au BPC.
Jusqu'à la troisième?
Oui. Et après, elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens pour continuer les études. Et c'est comme ça que je suis restée à la maison. Un an, je n'ai pas été à l'école.
T'as les larmes aux yeux.
En fait, quand on aborde le sujet de ma tutrice, à un moment donné, je n'arrive pas à me contrôler parce que, avec les insultes et tout, ça me revient à l'esprit et je commence pas à pleurer. C'est des mots qu'elle emploie. Des fois, elle me dit « je suis sorcière ». Des fois que je gâte son nom, que je parle mal d'elle à la femme de l'ONG.
L'ONG PAFED, qui s'occupe des enfants qui sont victimes de violences, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est moi qui crée le problème dans la famille. Et ça me fait mal.
Est-ce que tu sais pourquoi ta tutrice, Aïcha, elle veut que tu restes avec elle?
Mes parents m'ont confiée à elle et elle ne peut pas me laisser partir, aller chez quelqu'un d'autre.
Et donc toi, Aïcha, qu'est-ce que tu espères?
J'espère que tout se règle vite et que je quitte ma tutrice. Continuer les classes chez quelqu'un d'autre.
Je suis Olivier Badiala. Je suis le directeur du projet Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo, piloté par Plan International Togo, financé par Plan Suède. Le phénomène de conflit d'abord est une forme d'organisation sociale où les enfants sont intégrés dans le système d'échange entre familles. Donc cela peut être des familles parentées ou pas. C'était dans le sens de pouvoir donner une meilleure éducation à l'enfant qui est confié, de mieux protéger l'enfant qui est confié, d'avoir une meilleure socialisation. Donc en Afrique, c'était accepté de tous. Malheureusement, le phénomène a perdu son sens, sa qualité d'antan. Ce phénomène se transforme en ce que nous appelons traite des enfants.
Olivier, pour comprendre ce contexte au Togo, quand vous parlez de dérives liées au confiage des enfants, vous parlez de quoi?
Donc le phénomène au niveau national est dirigé des zones rurales vers les zones urbaines. Ces enfants sont exploités, soit économiquement où ils procurent des ressources pour les familles où ils sont là en vendant des choses, en faisant des tâches dures ou bien des travaux qui dégradent leur intégrité physique et morale. Des filles souvent sont utilisées comme des domestiques, comme des nounous ou bien utilisées pour vendre les céréales ou bien les aliments de leur patron chez qui elles vivent. Pendant que les enfants, même des parents où elles se trouvent, vont à l'école. Donc le deuxième élément, c'est dans les travaux champêtres. Donc, nous avons des enfants ici, par exemple, qui quittent la région centrale pour le sud du Togo où ils font un an dans des familles pour travailler et à la fin de l'année, on totalise ce qu'ils ont perçu et ils reviennent. Il y a des jeunes qui se retrouvent au Nigeria, où ils sont gérés par leurs bourreaux. À ce niveau-là, on parle de la traite des enfants.
Qui perçoit cette rémunération? C'est la famille d'origine?
Souvent, c'est la famille d'origine. Donc, il y a certaines de ces familles-là qui sont vraiment conscientes que l'enfant en allant va vraiment travailler. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas conscientes parce que ceux qui viennent pour chercher les enfants les font miroiter la meilleure vie, sans savoir que de l'autre côté, c'est ce qui se passe. Bon gré ou bien mal gré, il y a rupture de communication entre les parents et leurs enfants qui sont confiés. Et l'autre élément aussi, est lorsque les filles se retrouvent dans certaines villes comme Ouagadougou ou Burkina Faso pour servir dans des bars, et malheureusement pour elles, sous la pression des hommes, souvent ces filles sont obligées de se donner une prostitution déguisée.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes conséquences sur ces enfants du confiage?
Le premier élément, c'est la violence physique. Une petite erreur de l'enfant qui est confié, que la patronne ou bien le responsable puisse la rouer des coups. Et au-delà de ces violences physiques, il y a les violences psychologiques. Parce que chaque temps, sous la pression, sous les injures, sur les bassonnats, finalement, l'enfant finit par être traumatisé. Les violences d'ordre sexuel aussi peuvent arriver. Nous pouvons avoir des grossesses non désirées qui peuvent s'en suivre.
Est-ce que ces dérives, ça représente la majorité des cas d'enfants confiés ?
Oui, les dérives représentent la majorité des enfants confiés parce que les conditions de vie étant difficiles, tout le monde se bat pour pouvoir avoir une meilleure vie, une vie épanouie. Donc, ce qui fait que forcément, les familles qui accueillent profitent vraiment de la pauvreté, de la faiblesse de ces enfants-là pour exercer des cas de violence. Donc, cet aspect de solidarité a disparu pour donner place à vraiment à l'exploitation, comme je l'ai décrit.
Alors, ça veut dire quoi, Olivier ? Ça veut dire que le travail des enfants est une pratique encore largement acceptée au Togo et plus largement en Afrique de l'Ouest ?
Bien évidemment, c'est accepté d'une manière ou d'une autre parce que la pauvreté aidant, souvent, au-delà de la volonté de chaque parent de bien éduquer ou bien de garder son enfant, à un moment donné, il est obligé vraiment de laisser son enfant partir comme ça, dans sa tristesse.
Au Togo, 69% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est pourquoi l'ONG Plan International Togo s'est installée dans la région centrale depuis les années 1980, parce que les indicateurs de développement y sont vraiment défavorables, Raphaël.
Oui, c'est ça. En fait, la région centrale connaît une forte concentration de population par rapport aux autres régions du Togo, parce que là-bas, l'agriculture est très développée. Et à Sokodé, 70% de la population est musulmane, avec beaucoup de foyers polygame et donc de nombreux enfants par famille.
Et quelles sont les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l'inflation sur le confiage et le travail forcé des enfants ?
Alors, difficile d'avoir des chiffres officiels, mais globalement, en Afrique, les chiffres sont repartis à la hausse avec plus de 16 millions de cas supplémentaires par rapport à 2016. Et d'après l'UNICEF, la crise sanitaire et la hausse de la pauvreté ont surtout eu des conséquences sur l'exploitation des filles. Elles sont privées d'école, elles sont plus exposées au travail domestique, aux violences sexuelles et aux mariages précoces. Alors, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, lorsque le niveau de pauvreté augmente de 1%, le travail des enfants, lui, augmente en moyenne de 0,7%.
Et que disent les parents qui envoient leurs enfants travailler ?
Alors, j'ai rencontré une maman dans un quartier de Sokodé. Elle a confié son fils aîné il y a quelques mois et elle a accepté de témoigner anonymement.
Bonjour madame.
Bonjour, arrivée.
Merci. Je peux m'asseoir à côté de vous, sous l'arbre ?
Ah, il faut t'asseoir.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Je suis en train de décortiquer le sésame.
Et vous avez combien d'enfants, madame ?
J'ai 5 enfants.
Et vos enfants, ils sont où actuellement ?
Il y en a 4 qui sont là avec moi. Dans le quartier, il y a des gens qui vont au Ghana pour aller extraire de l'or. J'ai confié mon fils aîné à un homme de la communauté qui partait là-bas pour leur paillage, pour qu'il puisse gagner un peu d'argent et m'aider à subvenir aux besoins des autres enfants à la maison. Ce n'est pas facile de l'envoyer là-bas avec toute cette souffrance.
Et il a quel âge, votre fils, que vous avez confié ?
Il a 16 ans.
Et est-ce que c'était un choix du papa, de votre mari ?
Ça n'a pas été facile, mais on a été obligés à cause de la pauvreté. J'ai été obligée d'accepter que mon fils aîné parte tenter l'aventure. On en a parlé avec mon époux et on a pensé à le confier à une autre famille. Mais on est tous dans la même situation ici. Quelle famille aurait accepté de prendre en charge un autre enfant ?
Est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils ?
Oui, j'ai des nouvelles via WhatsApp. On arrive à communiquer tous les 2-3 mois à peu près.
Et est-ce que vous savez dans quelles conditions il travaille ?
Quand on se parle, il dit que ça va mieux. Là-bas, les conditions de travail ne sont pas faciles. Il travaille dans la rivière, il faut creuser, faire sortir le sable, tamiser. Je sais que c'est un travail difficile et qu'il y a des risques.
Et est-ce que vous savez comment il est traité là-bas ?
Je ne sais pas comment est traité mon enfant aujourd'hui, mais on souffre tous ici, alors on est obligé de le sacrifier.
Et est-ce que vous avez passé un contrat avec quelqu'un pour confier votre fils ?
Il y a eu en quelque sorte une forme de contrat parce qu'on a conclu un engagement avec l'homme de la communauté à qui on a confié notre fils. Il voyage et travaille avec lui. Et en retour, il nous verse une somme en fonction du butin qu'il rapporte. Donc il y a une part prévue pour la famille, mais c'est lui qui détermine cette somme, car il doit soustraire les frais de voyage, la ration alimentaire, toutes les dépenses qu'il aura au Ghana. Et puis il prend une commission, car c'est risqué pour lui aussi d'emmener mon fils.
Est-ce que vous êtes sûr que votre fils va rentrer avec une somme d'argent pour vous aider à joindre les deux bouts ?
On s'en remet à Dieu. On ne peut pas savoir si le retour de l'enfant apportera un grand soulagement pour la famille.
Est-ce que vous êtes la seule famille dans ce village à avoir confié votre enfant pour aller travailler comme orpailleur à l'étranger ? Ou est-ce qu'il y a d'autres enfants dans le village qui sont partis aussi ?
Je ne suis pas la seule. C'est ce qui se fait ici parce qu'aucune famille n'a les moyens de se prendre entièrement en charge financièrement. Donc on est tous obligés de confier nos enfants à des orpailleurs de temps en temps. Je déplore cette solution et je ne dors pas bien, sachant que mon fils est en train de se tuer à la tâche quelque part et de souffrir. Mais c'est la pauvreté qui fait que ce système existe.
Je suis Chakura Zarifu. Je travaille comme chargé de suivi d'évaluation à l'ONG PAFED, qui travaille pour la promotion des femmes et la défense des droits des enfants. Quand nous avons connaissance des cas et que nous localisons, notre travail consiste à aller très souvent dans la famille d'accueil pour voir dans quelles conditions l'enfant vit, s'il a besoin d'un soutien moral. Donc nous faisons ce travail-là d'accompagnants sociaux.
Ce travail forcé, ce travail domestique, la maltraitance, ça se passe à l'intérieur des maisons, dans les cours. Donc est-ce que les familles ouvrent facilement la porte ? Est-ce que vous arrivez à rentrer pour parler avec l'enfant ?
Ce n'est pas toujours facile de rentrer comme ça dans une famille et de se présenter en disant « voilà, on est ONG ». Déjà, quand on entend ONG, ils deviennent réfractaires, ils se disent que « ah, ceux-là sont là pour me créer des problèmes ». Donc, c'est pourquoi nous y allons avec un certain tact. Nous allons en tant que, disons, membres de la communauté, on se dit que « ok, voilà, on est tous togolais, on est là, on connaît la situation de chacun, on sait dans quelles conditions nous vivons tous, on comprend un peu que vous avez de temps en temps besoin d'enfants pour vous aider, tout ça là, parce que c'est une façon pour les familles également, certaines familles, de s'en sortir. » Nous y allons et on fait l'effort de familiariser un peu, de leur faire comprendre que « ok, tout ce que nous voulons, tout comme eux, c'est le bien de l'enfant ». On leur fait comprendre que certainement ils veulent aussi le bien de l'enfant, même si ce n'est pas toujours le cas. Le but premier de pouvoir s'insérer, c'est d'éviter de se faire menaçant. Pour pouvoir négocier avec cette famille d'accueil-là, pour que l'enfant puisse en sortir.
Comment vous identifiez ces enfants qui sont victimes de travail forcé, de maltraitance, dans les familles dans lesquelles ils ont été confiés ?
À ce niveau, nous travaillons avec les communautés, les leaders communautaires ou des alliés qui sont dans les communautés, sur qui nous nous appuyons, pour être informé des cas qui surviennent dans les communautés. Parce que c'est dans les communautés que se passent les violences. Et si nous n'avons pas des personnes de confiance dans ces communautés-là pour nous remonter des cas de violence, on n'en saurait rien.
Zarifou, on est dans un quartier au nord de Sokodé. Pourquoi vous m'avez amené ici ?
Oui, nous sommes dans ce quartier pour rencontrer un leader communautaire, c'est le chef de ce quartier, qui nous a pris beaucoup dans l'identification de ces enfants.
On y va, je vous suis. Bonjour monsieur.
Bonjour madame, soyez la bienvenue.
Merci. Je m'assois à côté de vous.
Oui. Ici, dans le quartier, vraiment, il y a assez des enfants qui partent. Après, tu vas chercher l'enfant, tu ne le retrouves pas. Et votre enfant, il dit bon, il est parti dire bonjour à la famille. Et tu en as qu'après, tu vas sentir que l'enfant est parti au bon âge.
Bon âge, ça veut dire le travail domestique dans une autre famille ?
Oui. Je ne suis pas du tout content de cela, parce que les enfants souffrent beaucoup. Quand on envoie les enfants, tantôt ils abandonnent les études. Quand ils seront grands, ils ne sauront pas quoi faire, parce qu'ils ont abandonné tout.
Et alors comment vous faites pour résoudre ce phénomène, pour empêcher les familles de confier leurs enfants ailleurs ?
Nous appelons les parents de l'enfant. On essaie de le conseiller, de le faire revenir l'enfant, parce que d'autres familles aussi sont pauvres, mais ils gardent leur patience pour pouvoir laisser leurs enfants auprès d'eux. Dans le cas échéant, qui ne nous écoute pas, nous approcher d'une ONG qui va aussi parler à la famille.
Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que les parents vous écoutent ? Parce que quand il y a une situation de pauvreté, l'urgence, c'est bon, effectivement de pouvoir survivre demain et après-demain.
Bien sûr, d'autres en comprennent. Ceux qui n'ont pas encore compris, nous sommes en train de sensibiliser. Et si ça ne va pas maintenant, il faut aller voir la gendarmerie.
Mais alors concrètement, chef, quand vous apprenez qu'une famille veut confier son enfant, qu'est-ce que vous faites?
Je dénonce. Il y a les ONG parfaites qui sont avec moi, que j'appelle, même si c'est la nuit, ils décrochent. Et il y a aussi l'affaire sociale, le directeur, qui nous a laissé notre numéro.
Chef, est-ce que vous êtes un cas particulier?
Oui, je veille beaucoup sur la protection des enfants. Parce que j'ai été confié dans une famille quand j'avais à peine 6 à 7 ans pour l'aider à cultiver. C'est pourquoi mes études se sont limitées là où je ne voulais pas. Alors, ce qui m'est arrivé, que cela n'arrive plus à un enfant.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, reportage de Raphaël Constant au Togo sur le confiage des enfants. Un confiage qui débouche presque toujours sur l'exploitation et le travail forcé. 160 millions d'enfants sont contraints de travailler dans le monde. En Afrique subsaharienne, c'est un enfant sur 4.
Ouais, l'exploitation des enfants les prive d'un accès à l'école alors que justement, ils en ont besoin pour briser le cercle de la pauvreté. Et alors finalement, c'est toute la société qui en paie le prix, Emmanuel. Puisque l'éducation, c'est un enjeu d'égalité et de développement.
Et du côté des familles qui prennent en charge des enfants, celles que l'on appelle les tutrices.
J'ai rencontré Mariam, tutrice de Rachida, qui lui a été confiée à l'âge de 9 ans à Sokodé. Rachida a aujourd'hui 18 ans et elle vit toujours chez sa tutrice. Je préviens, c'est un témoignage rare, car le sujet est tabou et les tuteurs n'assument pas toujours avoir des domestiques enfants à la maison, puisque c'est interdit par la loi au Togo.
Je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Malheureusement, mon mari m'a quittée il y a 22 ans. Je me suis occupée d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Certains se sont mariés et deux autres ont pu partir à l'étranger. C'est moi qui me suis occupée seule de mes enfants depuis la mort de mon mari.
Quand j'ai poussé la porte de votre maison, il y avait 3 enfants dans la cour, chez vous.
Oui, je confirme. Actuellement, j'ai 3 enfants avec moi, dont Rachida. Vous savez, je suis connue pour bien m'occuper des enfants dans le quartier. Par le passé, je me suis occupée d'enfants qui, aujourd'hui, ont réussi dans la vie. Une d'entre elles, par exemple, est aujourd'hui mariée et infirmière. C'est pourquoi les parents me confient leurs enfants.
Et elles ont quel âge, les jeunes filles, qu'on vous a confiées ?
Je ne connais pas leur âge réel, mais la plus jeune a entre 8 et 9 ans, la deuxième a 12 ans et Rachida en a 18.
Donc pour bien comprendre, vous aviez besoin d'une domestique à la maison ?
Aujourd'hui, j'ai besoin de ces enfants-là pour m'aider car j'ai des difficultés à me déplacer. J'ai des problèmes à cause de l'âge et du poids. Elles sont là pour m'aider. Par exemple, avant de partir pour l'école, les enfants me préparent le petit déjeuner et elles mettent à disposition tout ce dont j'ai besoin pour la journée. Les enfants font les courses au marché, elles font la cuisine pour nous toutes. Elles font également les tâches ménagères, laver les assiettes, faire la lessive, balayer la cour et la chambre.
Est-ce que vous rémunérez les parents de Rachida pour le travail qu'elle fait avec vous dans la maison ?
Au départ, je donnais de l'argent aux parents de Rachida que je leur envoyais à la fin de chaque mois. Et j'ai aussi payé sa scolarité et ses fournitures. Mais l'oncle paternel de Rachida m'a dit que ses parents dépensaient tout l'argent et qu'ils ne gardaient rien pour elle. Donc, quand Rachida quittera un jour la maison, elle n'aura aucune économie. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de verser de l'argent aux parents et de l'inscrire en apprentissage de la couture.
Et donc, à l'époque, quelle somme vous donniez aux parents de Rachida pour son travail de domestique ici avec vous ?
Au départ, je donnais à peu près 6 000 francs CFA par mois.
6 000 francs CFA, ça fait à peu près 9 euros. Et alors, cet atelier d'apprentissage, il est où ? Où est-ce que vous l'avez inscrite ?
L'atelier est juste en face de chez moi, à l'angle de la rue.
Ok, bon, je vais aller voir alors. Bonsoir. Alors, on m'a indiqué que vous étiez le maître d'apprentissage de Rachida, c'est ça ?
Je suis le patron de Rachida.
Et on est donc dans votre atelier de couture. Je vois plusieurs machines à coudre autour de nous, des morceaux de tissu, de pagne, un peu partout. Et puis surtout des affiches avec des modèles accrochés au mur. Et vous, vous portez un bel ensemble, un beau pagne jaune, orange, bleu. Et vous avez un maître autour du cou, en tant que bon couturier.
Vraiment, c'est ça.
Quand est-ce que Rachida est arrivée en apprentissage dans votre atelier ?
Rachida a commencé son apprentissage ici en 2020.
Et vous savez que Rachida, c'est une enfant confiée ?
Oui, je suis au courant. Je me souviens qu'on l'a amenée quand elle était petite pour aider à laver la maison. Comme Marianne, la tutrice, a pris de l'âge, il fallait quelqu'un en plus pour l'aider à la maison. Ce n'est pas une famille immensément riche, mais ce n'est pas non plus une famille démunie. Et d'ailleurs, c'est ce genre de famille qui reçoit les enfants comme domestiques ici.
Et ça coûte combien une formation en apprentissage ?
Il faut payer 82 000 francs CFA pour toute la durée de formation qui dure 3 ans.
Donc 82 000 francs CFA, ça représente à peu près 125 euros. Et alors Ibrahim, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passe avec Rachida, cet apprentissage ?
Le courant passe bien avec Rachida. Il n'y a pas de problème, sauf quand il y a de temps en temps des perturbations qui l'empêchent d'évoluer dans son apprentissage. Comme la maison de sa tutrice est proche de l'atelier, elle est souvent sollicitée pour retourner à la maison. Par exemple, parce qu'elle doit aller faire les courses ou parce qu'il y a des invités à la maison.
Et vous en pensez quoi ?
Ça me préoccupe beaucoup et j'ai essayé de discuter avec la tutrice pour lui faire comprendre les conséquences sur l'apprentissage de Rachida, mais ça n'a rien changé.
Alors d'après vous, pourquoi la tutrice de Rachida l'a inscrite en apprentissage en couture si c'est finalement pour ne pas la laisser aller au bout de sa formation et apprendre correctement ?
Il n'y a qu'une seule raison, c'est le confiage. À partir du moment où il y a eu un contrat entre la famille de Rachida et la famille d'accueil, l'enfant est obligé d'honorer cet engagement. Et donc, lui laisser profiter entièrement de son temps, ici, à l'atelier, c'est un peu comme si Rachida n'était plus entièrement disponible pour sa tutrice. Rachida avait arrêté ses études et comme il ne fallait pas qu'elle reste à la maison sans rien faire, elle l'a inscrite ici. Aujourd'hui, tout le monde sait que lorsqu'on prend un enfant comme domestique, si elle n'est pas inscrite à l'école ou qu'elle n'apprend pas un métier, ça peut porter préjudice. Donc, c'est une façon pour la tutrice de se protéger contre les éventuelles dénonciations et de contourner les textes de loi qui défendent les droits des enfants.
Je me nomme Juste Nimnora, je suis juriste, spécialiste des droits humains et je suis le chargé de programme de l'ONG Creuset Togo. Beaucoup de dispositions existent en matière de protection des droits des enfants dans le code de l'enfant, mais également dans le code pénal et même dans la constitution togolaise. Donc c'est l'ensemble de ces textes-là qui protègent l'enfant au Togo. On cite également dans ce cadre juridique le code togolais des personnes et de la famille.
Comment ces différentes lois et ces différents textes protègent les enfants contre les dérives du confiage des enfants ?
Il y a dans la pratique du confiage des éléments qui sont incriminés par la loi, notamment l'exploitation économique et sexuelle des enfants, les violences, disons, à caractère sexuel et toutes sortes de violences qui sont réprimées. Ce code a pris en compte les aspects liés à la traite des enfants et en a fait même un crime.
Il y a des lois qui ont été intégrées dans le nouveau code pénal, mais clairement, concrètement, sur le terrain, est-ce que ces lois sont appliquées ? Est-ce que les enfants sont vraiment plus protégés au Togo aujourd'hui ?
Il y a une difficulté d'application dans la pratique parce qu'en matière criminelle, ce sont les cours d'assises qui sont censées connaître de ces infractions-là. Et la procédure judiciaire dure plus longtemps. Donc les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents pour pouvoir trancher, connaître donc de ces cas-là. Ça prend pratiquement 4 à 5 ans au niveau de la cour d'assises. Donc déjà, c'est une première difficulté que les praticiens du droit sont en train de déplorer et que la partie, la victime, puisse être éventuellement dédommagée et restaurée dans ses droits.
Aujourd'hui au Togo, qu'est-ce que risquent les tuteurs, les tutrices qui exploitent les enfants qu'on leur a confiés, et qu'est-ce que risquent les parents ?
Les sanctions existent. Les peines en matière de violence et d'exploitation vont d'un an à 5 ans d'emprisonnement avec amende, dans la majorité des cas, lorsque c'est dénoncé. Donc le problème au niveau de notre zone de couverture, c'est cette dénonciation-là qui manque. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de cas de violation des droits des enfants qui ne sont pas portés à la connaissance des acteurs de la justice. Parfois, les preuves ne sont pas suffisamment réunies. Or, il y a un jargon juridique qui dit « la preuve est la rançon du droit ». À défaut de preuves, c'est un peu compliqué, c'est difficile de pouvoir déclencher les poursuites judiciaires. Maintenant, au-delà, il est aussi à reconnaître qu'il y a certains cas dans lesquels certains magistrats sont un peu, disons, laxistes. Le droit n'est pas suffisamment dit comme l'attendent les acteurs de la société civile. Nous faisons des plaidoyers dans ce sens pour que le droit soit dit dans toutes les circonstances et en matière de protection des enfants et dans leur intérêt supérieur.
Est-ce que pour vous, le confiage des enfants est une stratégie qui comble un manque de politique des enfants au Togo ?
Oui, il faut dire qu'il y a une insuffisance de politique sociale et surtout dans l'accompagnement des enfants, et la prise en charge et tout ça. Le confiage vient en quelque sorte comme une approche de solution chez certains parents compte tenu de la précarité économique, compte tenu de certains problèmes familiaux, certains problèmes sociaux.
Ça veut dire que l'État doit être plus regardant pour garantir les droits et la protection des enfants ?
Absolument, je pense que l'État doit être beaucoup plus regardant et les acteurs en charge de la protection de l'enfant doivent véritablement faire le travail, être sur le terrain. Par exemple, les inspecteurs du travail aussi qui doivent savoir comment pouvoir aller sur le terrain, faire des inspections, se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et corriger les choses comme ça se doit. Je pense que c'est à cet effet que les organisations de la société civile viennent également en appui à l'État pour essayer donc de pallier ou d'apporter des approches de solutions à ce problème réel.
Ici, nous sommes au centre Kandia de l'ONG Creuset Togo. Kandia qui veut dire protecteur, qui accueille, stabilise, protège, sécurise et réinsère les enfants victimes de toutes sortes d'infractions, y compris les enfants confiés. Je suis Bruno Moukbe, et je suis directeur exécutif de l'ONG Creuset Togo. Lorsque je me base sur notre registre pour l'année 2021, nous avons accueilli au total 95 enfants et sur ce nombre, les enfants confiés occupent un taux de 40%.
Peut-être qu'on peut rentrer dans le centre, Bruno.
Oui, et comme vous le constatez, c'est l'entrée donc du centre ici.
On est dans une cour arborée. Il y a des arbres un peu partout, des plantes aussi violettes, des fleurs roses, des fleurs oranges. Et autour de nous, des bâtiments bleu ciel et beige.
À ma droite, ce sont les dortoirs des enfants filles. À ma gauche, les dortoirs des enfants garçons.
Alors racontez-moi, votre centre, qu'est-ce qu'il fait pour les enfants ? Comment vous arrivez à récupérer les enfants qui sont victimes de violences lors de confiages dans des familles ?
Nous avons un partenariat établi avec plusieurs acteurs, notamment le service de l'action sociale, la justice, la police, la gendarmerie. Mais avant que l'enfant ne soit admis ici, un rapport d'enquête sociale est établi par un service compétent et le rapport est transmis au juge du tribunal de provenance de l'enfant. Il acte cela par une ordonnance de placement qui constitue la première carte d'entrée dans notre centre d'accueil et donc le processus d'accompagnement est déclenché pour cet enfant.
Donc ces enfants ne vous sont pas confiés, ils dépendent bien d'une ordonnance juridique qui leur permette d'être en transit dans ce centre d'accueil.
La durée du séjour, c'est 3 mois, mais il y a des exceptions pour des raisons multiples, soit les parents ne sont pas retrouvés malgré les recherches, soit le repère familial n'est pas favorable pour le retour de l'enfant parce qu'il constitue encore un danger.
Votre objectif, c'est de réinsérer ces enfants dans leur famille biologique ou alors de leur trouver une famille d'accueil.
Oui, d'abord stabiliser les enfants parce qu'ils sont traumatisés. Et donc ça constitue les bases pour préparer l'objectif principal qui est la réinsertion socio-familiale, professionnelle et scolaire de l'enfant. Et quand ils arrivent ici, il y a un certain nombre d'activités de socialisation et l'intégration d'autres enfants. Donc il faut l'accompagnement psychologique pour faciliter son intégration, son adaptation ici au centre. Le second volet, c'est ce que nous appelons projet individualisé de chaque enfant. Il y a à la fois chez qui l'enfant veut rester, dans sa famille, pour aller à l'école ou pour apprendre un métier. Et ce que nous appelons rétablissement des liens familiaux, il faut aller plusieurs fois discuter avec eux, négocier, faire la médiation pour qu'ils acceptent le retour de l'enfant.
Et pourquoi médiation ?
Parce qu'il y a un problème. Les parents ont été complices de son confiage. Et donc, il faut aller leur expliquer le bien fondé sur les questions de protection des enfants, droits de l'enfant, quelle devrait être leur attitude, pourquoi l'enfant doit vivre chez eux en tant que famille biologique au lieu qu'il soit confié à une tierce personne.
Est-ce que le risque, c'est pas que l'enfant soit à nouveau confié dans une autre famille ?
Avant même la réinsertion, il y a une étape que nous appelons évaluation des conditions socio-économiques de la famille. Nous avons un programme d'autonomisation des familles vulnérables. Et en quelque sorte, nous sommes là pour voir à chaque niveau quelle est l'approche, quelle est la stratégie corrective pour pouvoir réinsérer l'enfant et que réduire les risques de rechute.
On avance ?
Ok.
Bonsoir les enfants.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut ensemble s'asseoir et puis discuter à présent ? Aujourd'hui, comme planifié de la séance que nous appelons séance de causerie éducative, avec maman Suzanne qui va animer, n'est-ce pas ?
Salut les enfants !
Salut maman !
Est-ce que vous savez que la loi dit que les enfants ne doivent pas faire les travaux forcés et les travaux dans les champs qui dépassent leur force physique?
Oui, je suis petit, mais je fais les champs.
Ah.
Moi, quand j'étais chez mon oncle, il vient, il te réveille 4 heures de quitter pour aller au champ. Mais tu n'as pas fini de dormir. Il te réveille forcément et il te tape.
Quand j'étais chez ma tante, elle me faisait du mal. Quand je vais au champ, elle me transporte les lourds bois d'amener à la maison. Quand je ne peux pas, je mets ça par terre. Elle vient là-bas, elle me tape. Elle me tire par terre que moi, je suis sorcière. C'est moi qui ai tué son enfant.
Vous savez qu'on vous initie un peu à faire certaines choses. Mais quand ça vous dépasse, on vous force à finir un hectare alors que vous n'avez pas la force là. Vous savez que vous devez dénoncer ça.
Et si vous retournez dans la famille, et si vous êtes de nouveau victime de violence, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu dois appeler les policiers.
Et si on n'a pas le numéro du commandant, on fait quoi? Il y a un numéro que l'État a mis en place pour les enfants. Même si vous n'avez pas de crédit. Allô, je m'appelle Abel, je suis à Atakpamé. Et on me maltraite là où on vend les poissons. Je suis Abel, je suis assis à côté de la station d'essence. On vient le voir là-bas. Quel est le numéro là?
10-11.
Un triplé. Qui peut essayer?
Moi.
Ton portable est où? Voilà, là où je veux arriver en demandant son portable est où? Même si vous n'avez pas de portable et on vous a frappé, vous sortez sur la route, dites à quelqu'un qui passe, vous pouvez m'appeler un numéro qu'on appelle combien ?
10-11.
Est-ce qu'on est d'accord ?
Oui, papa.
Si je marche dans la rue, je regarde pour voir quoi ?
Oui.
Police ? Oui.
Juge.
Tu vois juge, tribunal, tu dis que là-bas, là, je peux me cacher. Quoi encore ?
Des affaires sociales.
Affaires sociales.
C'est magnifique.
Il y a encore chef canton.
Chef canton ou village. Oui, Suzanne.
On est en train de préparer votre retour. Ce n'est pas parce que vous êtes chez l'oncle que vous n'allez pas dire ce qui ne va pas. Alors que vous souffrez, ce n'est pas bon aussi. Merci. Ok, levez-vous.
confiage des enfants au Togo, que se passe-t-il dans les familles? C'est un reportage de Raphaël Constant chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez RFI. Raphaël, le Togo s'est engagé à mettre fin au travail des enfants d'ici 2025 dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir la traite, l'esclavage, l'exploitation sexuelle qui doivent se finir. Mais qu'en est-il sur le terrain?
En fait, la société civile manque de moyens. Le centre Candia, par exemple, qu'on vient d'entendre, reçoit une aide du gouvernement togolais d'1 million de francs CFA par an, soit environ 1500 euros. Et c'est trop peu pour accompagner tous les enfants recueillis dans le centre. Alors l'ONG Creuset Togo doit donc compter sur des dons ou sur les bénéfices d'activités développées en parallèle, comme par exemple les revenus d'une unité de transformation de jus de fruits, et cela pour éviter la dépendance totale.
Mais que deviennent ces mineurs une fois qu'ils ont été récupérés par les autorités ou les ONG de protection des droits des enfants?
Alors vous allez comprendre les limites de la réinsertion, car si ces enfants sont bien traités, c'est-à-dire scolarisés, nourris et habillés, ces enfants accueillis sont la plupart du temps les plus sollicités dans les familles pour les tâches ménagères. Mais il faut le dire quand même, s'ils n'étaient pas placés, ils seraient certainement à la rue. Alors j'ai rencontré Juliette, 13 ans, elle est couverte de cicatrices et elle vient d'une famille de 6 enfants. Elle est aujourd'hui en classe de 6e. Elle est passée par le centre de transit Candia et après une enquête de l'ONG, ses parents n'ont pas été retrouvés. Alors ils l'ont placée dans une famille d'accueil chez Jean-Marie et Odette.
Bonjour.
Bonjour, madame. Soyez la bienvenue.
Merci. Bonjour.
Bonjour, madame. Soyez la bienvenue. Quand j'étais chez ma mère, elle vivait en Angoto. Mon père était décédé. Donc, elle va me confier à mon oncle. Peut-être il va m'aider là-bas. Ma grand-mère n'était pas d'accord, mais notre oncle m'a pris comme je ne fais rien pour m'amener chez sa femme pour tenir son enfant au Nigeria. J'avais 7 ans. Quand il m'a pris, je n'allais pas à l'école. J'ai tenu son enfant jusqu'à qu'elle a grandi. Après, une femme est venue. Elle est un peu proche de notre maison. Elle demandait dans le village qu'elle cherche une bonne. Et donc, mon oncle a décidé de m'amener pour aller travailler. Chaque jour, je travaille. Je lave les habits de ses enfants. Elle a 4 enfants. Je nettoie le salon. Je prépare pour eux. Je fais tout pour eux. Mon oncle vient prendre l'argent. Il vient prendre le salaire qu'on devait me donner.
Et comment tu étais traitée par cette dame?
Cette femme, elle était gentille, mais des fois, elle s'énerve. Elle me frappe avec une spatule. Ou bien, si je n'ai rien fait, quand mon oncle vient, elle ment pour dire à mon oncle que je ne fais pas bien le travail, donc elle ne va pas payer mon oncle.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
Après, elle a construit une boutique à côté de la route. J'étais là-bas avec elle, chaque jour on vend. Un jour, les policiers sont arrivés pour me prendre. Et les policiers ont dit qu'on a interdit de voir un enfant togolais au Nigeria. Ils m'ont pris amené dans un centre.
C'était un centre d'immigration, c'est ça?
Oui, c'est là-bas j'étais jusqu'à 1 an. Et un jour, ils ont appelé Creuset Togo. Ils ont appelé le chef de venir me prendre.
Et comment ça s'est passé l'arrivée dans cette nouvelle famille? Est-ce que c'était inquiétant pour toi?
Je suis arrivée, j'ai été inscrite à l'école. Quand je me lève, je lave les assiettes, je prépare pour papa, je balaye le salon, je douche l'enfant, je me douche pour partir à l'école.
Mais donc, tu fais aussi un travail de domestique ici?
Non, parce que maman est occupée, elle a un restaurant quelque part. Donc les activités qui sont à la maison, c'est moi qui fais avec la grande sœur. Les filles font ça avant de partir à l'école.
Et aujourd'hui, Juliette, comment tu vas?
Aujourd'hui, je sais que je me sens maintenant bien. Cette famille m'a pris comme leur propre fille. Je me sens à l'aise maintenant. Tout dont j'ai besoin, ils me donnent. Si j'ai un problème, ils me donnent des conseils. La maman, elle m'appelle pour me consoler.
Mais comment tu te sens? Est-ce que c'est difficile de se réinsérer dans une autre famille que la tienne?
Oui. J'arrive à avancer, mais des fois, quand je pense à ça, je ne sais plus quoi faire. J'aimerais rester chez ma mère, même si elle n'a pas d'argent. J'aimerais rester chez elle, mais jusqu'aujourd'hui, on ne la voit pas. Elle ne me cherche pas aussi pour voir mes nouvelles, où je suis. Moi, plus tard, j'aimerais devenir sage-femme pour continuer ma vie.
Jean-Marie, Odette, expliquez-moi pourquoi vous avez décidé d'accueillir Juliette chez vous.
J'avais appris sur les antennes qu'il y a un enfant égaré et qui serait originaire de mon village et qu'on ne retrouve pas ses parents. C'est dans ce sens que j'ai entrepris des démarches parce que nous sommes là pour s'entraider. On ne peut pas refuser.
Et est-ce que vous avez déjà des enfants dans la famille?
Si, si, nous avons déjà les enfants. Il y a 8 ans et 1 an, quelques mois. Et je voyais qu'il y a certains manques et j'ai dit, mais s'il y a quelqu'une qui est un peu âgée, même si elle va à l'école, il y a certaines tâches qu'elle doit m'aider à faire dans la maison.
Est-ce que ça s'apparente à un travail domestique?
Non, ce n'est pas ça.
On peut la scolariser pour qu'elle puisse évoluer au même titre que les autres, quoi. Donc c'est ça notre intention. La preuve, ça vous mentir que c'est excellent, elle est première de sa classe. Si c'était une domestique, elle n'aura pas le temps d'apprendre. On va l'occuper pour des travaux et ça ne peut pas marcher.
Et juridiquement, quel statut elle a dans votre famille?
C'est un placement bénévole. Le juge a signé, a donné son accord avant que je ne l'apprenne pour qu'on puisse suivre les traces de l'enfant. Et il y avait même visite de notre maison pour s'entretenir avec nous. Il y a des conditions idéales pour pouvoir accueillir un mineur.
Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez encore des contrôles pour voir si Juliette va bien, si elle est bien traitée, si elle va à l'école?
Effectivement, périodiquement, pour s'enquérir des nouvelles de l'enfant.
Quand vous avez récupéré Juliette, quel statut elle avait à l'état civil?
Elle n'avait pas d'acte de naissance parce que on n'a pas pu retrouver ses parents. Elle ne peut pas être inscrite à l'école sans un acte de naissance. C'est pour cela que le juge a décidé de lui faire un jugement supplétif qui décide de créer l'acte de naissance à l'enfant, lui permettant de s'inscrire à l'école et passer différents examens, permettant aussi à l'enfant de se réinsérer dans la société.
Et vous, Madame Odette, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé quand Juliette est arrivée chez vous?
Au début, ce n'était pas facile. Quand je lui dis de laver les assiettes, si elle lave mal, je peux lui dire c'est comme ça, ça se fait. Elle se met à pleurer. Peut-être elle se croit que ce qu'on lui dit, c'est de la méchanceté, alors que ce n'est pas ça.
Vous ne pensez pas qu'elle est peut-être traumatisée par ce qu'elle a vécu au Nigeria, par exemple?
Peut-être.
Effectivement, elle a été traumatisée par la violence du travail forcé. Mais si nous lui accordons un cadre social décent, elle va oublier ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
On a dit, c'est sa nouvelle maison maintenant. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Tout ira bien. On doit lui donner l'amour d'un père ou d'une mère pour qu'elle se sente à l'aise auprès de nous. Donc elle nous a pris aussi comme ses parents.
Confiage des enfants, que se passe-t-il dans les familles? C'était un reportage de Raphaël Constant au Togo, réalisé avec le concours de l'ONG Plan International, monté et mixé par Romain Dubrac, à réécouter en podcast sur les plateformes de téléchargement et surtout n'oubliez pas d'aller voir le diaporama de Raphaël Constant, les images de ce reportage difficile au Togo, sur notre compte Instagram et sur tous nos réseaux sociaux. Le compte Instagram, c'est 7 milliards RFI.